Chaque jour, il y a des milliers de colis qui restent coincés aux frontières un peu partout dans le monde.
Ouais, et la plupart du temps, ben c'est même pas parce que ça contient des objets illégaux ou dangereux.
Exactement. C'est souvent juste à cause d'une petite case mal remplie sur un formulaire, une case qui a l'air super banale, la valeur.
C'est fou quand on y pense.
Ben, tu sais, habituellement, quand on pense à une déclaration de revenus, par exemple, on sait très bien qu'on peut pas juste inscrire le chiffre qui fait notre affaire.
Non, on s'entend qu'il y a des règles, des audits et une réalité mathématique stricte à respecter.
En plein ça. Mais curieusement, quand vient le temps d'expédier une boîte à l'international, ben, cette logique implacable a souvent l'air de s'évaporer.
C'est un phénomène qui me fascine. On a vraiment tendance à voir l'expédition comme un simple acte logistique, genre déplacer une boîte du point A au point B.
Alors que c'est beaucoup plus que ça, dans le fond.
Tellement, c'est un acte juridique et économique super complexe. Et aujourd'hui, on se penche justement sur un guide technique produit par Freightcom.
Oui.
Un document qui s'intitule « Comment éviter les problèmes de sous-évaluation lors des expéditions internationales ».
Oui, c'est vraiment un regard de l'intérieur sur ce qui se passe dans les coulisses des douanes.
Et c'est crucial parce que ça démystifie l'évaluation en douane. Ça a l'air d'être de la pure bureaucratie poussiéreuse à première vue.
Fait que notre mission pour cette exploration approfondie, c'est de comprendre pourquoi c'est en fait le rouage critique qui maintient tout le commerce mondial en mouvement.
C'est littéralement l'épine dorsale du système.
Mais avant de plonger, on doit quand même mettre une petite balise de sécurité par rapport à nos sources.
Absolument. Le document de Freightcom précise très clairement, il faut le réitérer, que les informations qu'on aborde sont de nature générale.
Ouais, on parle des principes de base de la logistique mondiale ici.
Exact. Ce ne sont pas des conseils juridiques ou fiscaux. Les règles s'appliquent à tous les transporteurs et tous les pays, mais c'est toujours la responsabilité de l'expéditeur de vérifier les exigences précises.
Parfait, c'est noté. Donc, pour comprendre pourquoi autant de boîtes finissent dans des entrepôts douaniers, faut commencer par la base.
La philosophie de la chose, oui.
Comment est-ce que le monde entier arrive à s'entendre sur la définition même du mot « valeur » ?
C'est vrai que c'est presque philosophique. On passe du colis physique qu'on peut toucher à un concept totalement abstrait.
Sur quoi les douanes se basent, mettons, pour dire qu'un objet vaut tel ou tel montant?
Pour ça, faut remonter à l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC. Parce que historiquement, les pays pouvaient juste inventer des valeurs arbitraires.
Ah ouais, puis juste pour taxer lourdement les produits étrangers.
En plein ça, c'était pour protéger leurs propres industries locales. C'était un peu le chaos.
J'imagine. Fait que l'OMC a dû intervenir.
Ouais, ils ont mis en place un cadre d'évaluation douanière qui repose sur une idée centrale. Le système se doit d'être juste, uniforme et neutre.
Et le pilier de ce système-là, la base mondiale, c'est ce que le document appelle la valeur de transaction.
Exactement. C'est la référence absolue.
C'est un thème qui sonne bien, mais concrètement, sur le terrain, ça veut dire quoi, cette valeur de transaction?
Ça signifie le prix qui a été réellement payé ou qui sera payé pour les marchandises quand elles sont vendues pour l'exportation.
Avec certains ajustements, j'imagine, pour le transport ou l'assurance.
C'est sûr. Mais la douane ne cherche pas à savoir combien on pense que l'objet vaut dans un monde idéal ou dans un catalogue.
Ils veulent des faits.
Oui, ils veulent savoir une seule chose. Combien d'argent a réellement changé de main entre l'acheteur et le vendeur pour déclencher ce mouvement transfrontalier?
OK. On va rendre ça encore plus concret avec un scénario de tous les jours. Mettons que quelqu'un achète un équipement électronique qui se vend normalement 1000 $.
D'accord.
Mais non, il y a une liquidation monstre, genre le fameux vendredi fou, et la personne réussit à l'acheter pour 400 $.
Une aubaine classique.
Ben c'est ça. La transaction est 100% légitime. Quand la boîte arrive à la frontière, est-ce que la douane veut voir le prix de détail régulier de 1000 $ ou le 400 $ qui a été effectivement payé?
C'est le genre de situation qui crée tellement de confusion. Mais la règle de l'OMC est vraiment limpide là-dessus.
Ah oui?
Oui, c'est la réalité commerciale de la transaction spécifique qui prime.
Donc le 400 $.
Exactement. Si l'accord légitime s'est conclu à 400 $ avec une preuve de paiement valide pour le prouver, bien la valeur de transaction est de 400 $.
La douane taxe le mouvement économique réel. Dans le fond.
C'est en plein ça. Pas un prix de catalogue purement théorique.
Vu comme ça, la règle semble d'une simplicité enfantine. On déclare simplement le prix payé.
On pourrait penser ça, oui.
Mais pourtant, le guide de Freightcom démontre que c'est un véritable champ de mine. Si c'est si simple, pourquoi est-ce qu'on voit autant d'erreurs?
C'est parce que la logique humaine, ou disons l'instinct du bon service à la clientèle, ça entre souvent en collision frontale avec la réglementation douanière.
Ah, je vois le genre. Les gens veulent bien faire.
Oui, les expéditeurs veulent accommoder leurs clients et ils tombent dans des pièges de fausse logique. Le guide identifie des erreurs super précises, d'ailleurs.
La première, j'imagine que c'est la plus classique.
C'est de baisser la valeur déclarée juste parce que l'acheteur à l'étranger le demande poliment.
Le fameux courriel de l'acheteur qui dit « Pourriez-vous déclarer que ça vaut la moitié du prix, s'il vous plaît? »
C'est tellement fréquent.
Mais on s'entend que céder à ça, c'est essentiellement participer à la fraude fiscale.
Ni plus ni moins, c'est une fausse déclaration. Mais il y a des cas beaucoup plus nuancés où les expéditeurs pensent sincèrement avoir raison.
Parlons-en de ces cas-là parce que je suis curieux. Mettons qu'une entreprise envoie une pièce de rechange sous garantie pour réparer une machine défectueuse.
OK, un très bon exemple.
Littéralement, aucun argent change de main au moment de cette expédition-là. Le client a déjà payé la machine, genre il y a 2 ans.
Exact.
Fait, mathématiquement, la valeur de cette transaction spécifique, c'est de 0 $. C'est honnête de l'écrire, non? Le système doit bien avoir une exception pour les trucs gratuits.
C'est une déduction tout à fait logique d'un point de vue humain, mais pour la douane, c'est une hérésie totale.
Attends, vraiment?
Oh que oui! L'Agence des services frontaliers du Canada, l'ASFC, est super catégorique dans ses directives. Une valeur doit être déclarée pour absolument toutes les marchandises importées.
Même si c'est 100 % gratuit, mais pourquoi?
Parce que l'objet possède une valeur matérielle intrinsèque. Même un échantillon promotionnel ou une pièce de remplacement, ça a coûté quelque chose à fabriquer.
Ah, je vois.
Pour la douane, 0 $, ça n'existe juste pas dans le monde matériel. Faut déclarer la juste valeur marchande de la pièce.
Et j'imagine qu'ils ont des façons de vérifier ça.
Très certainement. Les douanes ont des algorithmes super puissants. Si le système informatique voit passer une caisse de 50 kilos d'acier usiné avec une valeur de 0 $, ça déclenche une alerte rouge instantanée.
Ah, c'est sûr.
Les systèmes automatisés croisent le poids, le type de matériau et la valeur en une fraction de seconde.
Ça me fait penser à un autre paradoxe fascinant qui est soulevé par le documentaire, la fameuse confusion entre le coût de fabrication et le prix de vente.
Un grand classique, ça aussi.
Imaginons un artisan qui fabrique une chaise en bois. Le bois, les clous et la cire, ça lui coûte environ 20 $ au total.
D'accord.
Mais grâce à son talent, l'œuvre finie se vend 300 $ à un client en France.
Ouais.
L'instinct de l'artisan, en remplissant le formulaire, ça va être de se dire « Matériellement, ça m'a coûté 20 $, donc je déclare 20 $ ».
C'est un réflexe presque psychologique. On a vraiment l'impression d'être honnête en déclarant le coût des matériaux.
Ben oui, c'est la matière première.
Mais c'est une grosse illusion d'optique pour les douanes. Le point de bascule, c'est que la douane n'évalue pas l'objet avant sa transformation. Elle l'évalue tel qu'il est vendu.
Donc avec la valeur ajoutée.
L'ASFC définit le prix payé comme l'ensemble des paiements effectués. Puisque le client a payé 300 $ pour obtenir cette chaise, c'est ce transfert de richesse-là qui franchit la frontière.
Wow! OK, la distinction est super importante.
Le coût de fabrication de 20 $ n'a plus aucune pertinence légale au moment de l'exportation.
OK, je comprends mieux. Et qu'est-ce qu'il en est de la technique de scinder une commande? Genre, un client achète pour 800 $ de marchandises, mais le seuil pour payer des taxes dans son pays, c'est 500 $.
Fait que l'expéditeur divise gentiment la commande en 2 boîtes de 400 $ envoyées à 1 jour d'intervalle.
Exactement. Une petite astuce logistique inoffensive, non?
Pas du tout. Le document cite directement une liste de vérification d'UPS sur ce point-là. Diviser intentionnellement des commandes pour contourner les seuils, c'est une violation légale très sévère.
Ah ouais, on n'y est pas avec ça?
Non. Et les algorithmes dont on parlait tantôt sont spécifiquement conçus pour repérer des envois multiples vers la même adresse dans une courte période.
Donc, si notre instinct humain nous pousse vers ces erreurs-là, comment on fait le pont? Faut bien que l'information vive quelque part, de façon standardisée.
Surtout qu'un agent frontalier a juste quelques secondes pour regarder un dossier. C'est là qu'entre en scène le document le plus important de tout le processus.
La fameuse facture commerciale.
Exactement. C'est l'outil qui permet de prouver que la valeur déclarée est la bonne.
Et juste pour être clair, on ne parle pas d'un simple reçu de caisse griffonné ou d'une capture d'écran d'un panier d'achat, là.
Non, vraiment pas. J'aime utiliser l'analogie de la facture de restaurant, mais à l'échelle de l'économie mondiale.
Oh, j'aime ça. Comment ça marche?
Et quand on va au restaurant, on ne reçoit pas juste un bout de papier qui dit « repas 100 $ ». La facture détaille chaque entrée, chaque plat principal, les boissons, les taxes.
Pour qu'on puisse vraiment vérifier le calcul.
Exact. La facture commerciale fait la même chose pour la douane. Elle doit répondre clairement à quoi, qui, combien ça vaut et comment ce montant-là a été calculé.
Et pour répondre au quoi, on voit souvent des acronymes techniques dans l'industrie. On parle souvent des codes SH, le système harmonisé. C'est quoi exactement dans ce contexte-là?
Le code SH, c'est essentiellement le code postal mondial d'un produit. C'est une série de chiffres, généralement de 6 à 10 chiffres, qui classifie la nature exacte de la marchandise.
Fait qu'une chaise en bois, ça n'a pas du tout le même code qu'une chaise en métal, par exemple.
En plein ça! Ce code-là permet à la douane d'appliquer le bon taux de taxation tout de suite sans même avoir à traduire la description du produit.
Super intelligent! Et les Incoterm, c'est au passé aussi?
Ce sont des règles internationales qui définissent très clairement à quel moment le risque et les coûts passent du vendeur à l'acheteur.
Genre, qui a payé le transport jusqu'où part, c'est ça?
Exactement. C'est vital parce que, selon l'Incoterm utilisé, bien, les frais de transport et d'assurance peuvent devoir être ajoutés ou déduits de la valeur déclarée.
OK. La théorie est claire. Mais je vais me faire l'avocat du diable un instant. C'est énormément de détails à gérer pour chaque petite expédition.
C'est sûr.
Est-ce qu'écrire une description générique comme pièce ou marchandise sur la facture, c'est vraiment si grave? Tu sais, si le montant total en bas de page est bon?
C'est honnêtement l'une des pires choses à faire. Des mots vagues comme ça, ça détruit toute la crédibilité de la facture.
Vraiment, à ce point-là?
Oui, parce que le courtier en douane n'a aucun moyen de vérifier si la valeur a du sens. 100 $ de pièces, est-ce que c'est des pièces de montre suisse ou des pièces de plomberie en plastique?
Ah oui, vu de même.
Le code SH et la valeur peuvent pas être validés. C'est littéralement brandir un drapeau géant invitant la douane à bloquer et inspecter la cargaison.
Et certains pays sont particulièrement stricts là-dessus, hein? Le document mentionne des règles américaines spécifiques.
Oui, le guide cite le titre 19 du Code Federal Regulations des États-Unis, la section 141.86 pour être précise.
Ouf, ça sonne très lourd comme réglementation.
C'est extrêmement détaillé. Les douanes américaines exigent que la facture détaille non seulement la quantité et le prix d'achat individuel, mais aussi tous les frais séparément.
Fait que le frais, l'emballage, l'assurance, tout doit être séparé.
Exactement. Et la raison de cette granularité extrême, mais c'est parce que les systèmes de dédouanement modernes sont automatisés.
Les fameux algorithmes encore?
Oui, les algorithmes ingèrent ces données pour cibler les anomalies. S'ils voient un montant global sans séparation, ils ne peuvent pas calculer la vraie valeur de la marchandise seule. Et la machine rejette l'envoi.
Ce qui nous amène aux conséquences sur le terrain. Imaginons que la machine rejette l'envoi parce que la description disait juste « cadeau de 0 $ ».
C'est la catastrophe.
Qu'est-ce qui se passe concrètement? Les sources montrent que c'est bien plus grave qu'un livreur qui a 24 heures de retard.
C'est un effet domino instantané. Dès qu'une expédition est jugée suspecte, tout le processus se fige.
Fait que le colis, il bouge plus du tout.
Non, il est physiquement bloqué dans un entrepôt sous douane. Et là, les autorités vont exiger des preuves. Des relevés de cartes de crédit, des correspondances, des confirmations de commandes originales.
Et on s'entend qu'un entrepôt sous douane, ben, c'est jamais gratuit.
C'est ça, ça engendre des frais d'entreposage quotidiens. Et c'est pas fini, il peut y avoir une inspection physique intrusive de la cargaison.
Ouch!
La douane peut aussi procéder à un ajustement rétroactif. Donc, recalculer la valeur à la hausse et imposer les taxes manquantes, plus des pénalités financières.
Ça finit par coûter cher, cette petite erreur-là.
Et dans les cas extrêmes, le colis est purement et simplement retourné à l'expéditeur à ses frais.
Il y a un autre point dans le document de Freightcom qui m'a vraiment frappé. C'est de voir que les transporteurs eux-mêmes, on parle d'entreprises privées comme APS, FedEx ou Freightcom, prennent des mesures.
Oui, ils ont leur propre politique de sécurité.
C'est ça. Ils se réservent le droit d'inspecter les boîtes ou même de suspendre des comptes clients pour des problèmes de sous-évaluation. Pourquoi une compagnie de transport prendrait ça tellement à cœur?
Il faut regarder ça avec la lancée de la logistique globale. Beaucoup d'expéditions voyagent sous forme d'envoi consolidé.
Qu'est-ce que tu veux dire par consolidé?
Ça veut dire qu'un seul camion ou un conteneur regroupe des milliers de colis appartenant à des centaines de clients différents.
OK, je vois le portrait.
Si un seul client sous-évalue sa marchandise de façon flagrante, bien, la douane ne va pas juste retenir ce petit colis-là, elle peut retenir le camion au grand complet.
Wow! Donc, la mauvaise déclaration d'une seule personne prend en otage la marchandise de tous les autres expéditeurs qui ont suivi les règles.
C'est exactement ça. Les transporteurs exigent l'exactitude des informations pour protéger l'intégrité et la vitesse de tout leur réseau.
Un mauvais client devient un risque toxique, dans le fond.
En plein ça, d'où leur pouvoir de suspendre des comptes.
Fait que face à des conséquences aussi lourdes, comment est-ce qu'une entreprise peut réellement se protéger avant même d'imprimer l'étiquette? Le guide propose d'établir une sorte de pare-feu interne, c'est ça?
Oui, l'idée, c'est de gérer le risque à la source avec une liste de vérification. La première étape, c'est l'extraction des données.
Directement du système de vente, j'imagine.
Exact. Que ce soit une boutique en ligne ou un logiciel comptable. Et comme on l'a vu, il faut extraire la valeur article par article, pas juste le total.
Ça garantit que si la douane demande une preuve de paiement, ben la facture correspond au centième près au relevé du client.
Voilà, on a la preuve en main en 5 minutes. Le deuxième rempart, et c'est souvent là que ça accroche, c'est la formation interne.
Mais au fond, il y a un conflit inhérent dans beaucoup d'entreprises. D'un côté, on a le service à la clientèle qui veut accommoder l'acheteur.
Et le rendre heureux, oui.
Et si l'acheteur demande de baisser la valeur douanière, le réflexe, c'est de dire « pas de problème ». Mais de l'autre côté, on a le département d'expédition qui, lui, doit obéir à la loi douanière.
Faut ériger un mur de briques entre ces deux réalités-là. C'est la meilleure façon de l'illustrer.
Une séparation étanche.
L'équipe d'expédition doit comprendre que modifier une valeur, c'est une ligne rouge. Et le service client doit avoir un script clair pour expliquer aux acheteurs que c'est un document légal, non négociable.
Et au besoin, consulter un courtier en douane pour les cas complexes plutôt que de deviner.
Absolument, c'est le filet de sécurité ultime.
Donc, pour récapituler, on réalise qu'inscrire des valeurs douanières exactes, c'est pas juste une formalité ennuyeuse, c'est le passeport vital de la marchandise pour éviter que le produit prenne la poussière dans un entrepôt.
Exact.
Mais avant de clore le sujet, il y a un tout petit détail glissé dans les sources qui m'a vraiment fait réfléchir. Le document note que l'ASFC utilise la valeur déclarée même quand des droits de douane sont pas applicables.
Oui, et ça, c'est fondamental pour comprendre le système dans sa globalité. Cette valeur-là, elle soutient les statistiques commerciales du pays.
C'est fou pareil.
Si on prend du recul à l'échelle macroéconomique, ça donne le vertige. Ces millions de petites déclarations de valeur, ça ne sert pas juste à percevoir quelques dollars de taxes.
Ça sert à quoi d'autre d'abord?
Ce sont les briques qui construisent les données économiques mondiales. C'est ce qui permet de mesurer la balance commerciale d'une nation avec le reste du monde.
Ah, donc c'est avec ça qu'on calcule le volume exact des importations et exportations?
Précisément. Imagine si chaque expéditeur sous-évaluait ses colis de seulement quelques dollars en se disant que c'est sans conséquence.
L'impact cumulé serait gigantesque.
La compréhension qu'un pays a de sa propre économie et de la santé des marchés, ben ça deviendrait une véritable fiction. Sans cette vérité-là à l'échelle d'une simple boîte en carton, c'est l'image globale de l'économie mondiale qui s'effondre.
C'est une perspective incroyable. Ça donne une toute autre dimension à ce petit chiffre-là. C'est un pixel indispensable dans la grande photographie de l'économie.
Complètement.
Fait qu'on peut définitivement pas juste inscrire le chiffre qui nous arrange. Voilà de quoi faire réfléchir longuement à la véritable portée de nos actions dans le commerce mondial. On se retrouve bientôt pour une autre exploration au cœur de l'information.